9h06, on regarde vers le ciel et les médailles, mais on garde bien les pieds sur terre jusqu'à 9h30. Bienvenue dans On en parle. Nous sommes en plein milieu des Jeux Olympiques de Pyeongchang et si tout le monde connaît le ski, le snowboard ou le hockey sur glace, eh bien il y a moins de chances que vous ayez déjà rencontré un athlète de skeleton ou un patineur de vitesse. C'est pourtant ces sports dont vous allez nous parler ce matin, Maya Chollet.
Oui, certaines disciplines semblent sortir de l'hibernation une fois tous les 4 ans pendant les Jeux Olympiques, surtout si des athlètes suisses y participent, avant de retourner dans l'indifférence générale une fois la flamme éteinte. Un petit exemple, ce week-end, deux romandes, Sarah Flynn et Mathilde Gremaud, ont terminé première et deuxième de slopestyle, une discipline de ski acrobatique intégrée aux Jeux en 2014, et on doit faire des figures en partant d'un tremplin. Avant cet exploit, ce doublé, le slopestyle n'était pas vraiment connu du grand public.
Non.
Et puis vous avez évoqué le skeleton, je peux aussi parler du big air, la version snowboard du slopestyle que l'on vient d'évoquer, ou encore du short track, une course de patinage de vitesse sur une piste très très courte. Et ces deux dernières disciplines sont disputées aux Jeux Olympiques cette année pour la première fois de leur histoire.
Les Jeux Olympiques font donc apparaître de nouvelles disciplines, plus ou moins populaires.
Apparaître ou réapparaître. Si on prend le skeleton par exemple, c'est en fait une discipline très ancienne. La première compétition a été organisée en 1887 ou 1887, avant même le bobsleigh, et devinez où ?
Ben, je sais pas, au Canada, en Suède ?
Non, en Suisse. En Suisse, la Suisse a toujours été très friande quand il s'agit de tester ou d'inventer de nouvelles disciplines, surtout en sport d'hiver. Et souvent, on retrouve des Suisses parmi les médaillés olympiques lorsque de nouvelles disciplines sont intégrées au jeu, justement comme ce week-end avec le slopestyle. Maintenant, imaginez Julien, vous avez 12 ans, vous voyez une course de skeleton à la télévision, donc des hommes en combinaison qui dévalent des toboggans à plus de 130 km/h, je parie que ça vous fait envie.
Oui, pourquoi pas, ouais.
Seulement voilà, vous ne savez pas où en faire. Le premier problème des sports de niche, de ces sports qu'on connaît peu, c'est de trouver un endroit pour s'entraîner. Et en Suisse, pour le skeleton, il n'y a qu'une seule piste, il faudra aller à Saint-Moritz.
Ouais, ok, justement, comment est-ce qu'on vient à pratiquer ce genre de sport inconnu du grand public? Et que conseiller à un jeune attiré par le skeleton ou encore le ski acrobatique, le patinage de vitesse? On en parle ce matin avec vous, Pierre Pfefferlet, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes directeur du service des sports Unis l'EPFL, vous êtes professeur de sport de neige, expert suisse snow sport depuis 1983 et formateur pour cette association. Autant dire que les sports d'hiver, ça vous connaît. Comment est-ce qu'on en vient à pratiquer le skeleton ou le slopestyle ou le patinage de vitesse? Est-ce qu'il y a un effet JO, des gens qui le voient pendant les Jeux Olympiques puis qui se disent « Ah, je vais m'y mettre ».
Bon, je pense que de toute façon, tout sport se pratique souvent lié à la proximité, voire à l'entourage qui est le nôtre. Donc maintenant, c'est vrai que quand on parle de skeleton, c'est un peu particulier, parce que comme l'a dit Maya, ben, en Suisse, il y a une seule piste qui est à Saint-Moritz. Dès lors, je pense que c'est un petit peu lié probablement à la proximité du lieu qui peut nous amener à un sport comme ça. Le slopestyle, je dirais, qui a été cité, est un peu différent, parce que le slopestyle reste quand même un prolongement. Ça vient du snowboard à l'origine, hein. c'est des sports de rue qui sont reproduits sur la neige. C'est un vrai sport freestyle, c'est un vrai sport où le style, ce qu'ils appellent, a un rôle à jouer. Et ça peut se pratiquer, entre guillemets, un peu partout, là où des installations sont faites pour, mais c'est fréquent.
Justement, si mon enfant est attiré par un de ces sports, le skeleton, le slopestyle, le patinage de vitesse, qu'est-ce qu'il faut lui conseiller et où l'inscrire?
Alors justement, je pense qu'il y a quand même un aspect culturel dans ces disciplines-là. Le patinage de vitesse, où il faut l'inscrire, je pense qu'il faut déménager en Hollande, ça serait peut-être la meilleure chose à faire. Mais disons, je pense que pour toute activité, il y a quand même des fédérations internationales. On sait qu'il y en a beaucoup à Lausanne, entre autres. Et via les fédérations internationales, on retrouve les fédérations nationales, et à partir des fédérations nationales, on peut effectivement avoir des informations quant à la pratique de ces sports qui sont un peu particuliers.
Est-ce que c'est un bon plan de choisir un sport de niche si j'ai 12 ans et puis que mon rêve, voilà, c'est de décrocher une médaille? Est-ce que j'ai meilleur temps de faire du short track parce que je me dis, voilà, il y a moins de gens qui font ça? Est-ce que j'ai plus de chances d'avoir une médaille que si je suis hockeyeur, par exemple? En Suisse, il y a beaucoup de hockeyeurs.
Bon, dans l'absolu, oui, vous avez plus de chances, parce que c'est sûr qu'un sport de niche, inévitablement, il y aura une concurrence qui est moins élevée, ou enfin élevée en termes de quantité, parce qu'en termes de qualité, je pense de toute manière, ceux qui arrivent à un diplôme olympique, serait-ce qu'un diplôme olympique, puis qu'on parle même pas de médaille, c'est déjà du très haut niveau. À partir de là, je ne suis pas complètement certain que dans la logique de la formation d'un jeune, la volonté première de gagner une médaille olympique pour faire une activité soit le bon choix stratégique.
Et tous ces nouveaux sports, ils viennent d'où? Enfin, qui c'est qui les invente? Qui c'est qui fait les règles?
Alors, je pense qu'il y a plusieurs voies pour des nouveaux sports. Typiquement, il peut y avoir des transferts. Hein. Si on imagine certains jeux qui sont passés de la salle à d'autres éléments, ou bien du grand terrain au petit terrain. Par exemple, le rugby, un rugby à 15 ou à 13 qui devient un rugby à 7, c'est des aménagements structurels. On peut imaginer aussi des sports. Ben, vous parliez du slopestyle, c'est quoi? C'est des transferts de la rue à la neige. Il y a beaucoup d'éléments comme ça. Il y a des effets de mode aussi. On a bien vu, par exemple, tout l'aspect du beach, hein, du beach volley, qui a fait du beach foot, qui a fait d'autres beach, etc. C'est un effet de mode. Donc, il y a plusieurs choses. Mais si on regarde un petit peu l'essence de là où viennent les jeux, c'est souvent aussi ce qui se fait dans la rue. Les enfants, quand ils commencent à jouer dans la rue, ils inventent des jeux. Et puis, au moment où on est plus que deux à faire un jeu, ben, il faut faire un cadre, créer un cadre. Et le cadre crée des règles.
Mais qu'est-ce qui fait que certains sports, comme le skeleton par exemple, se développent, ou se développent un petit peu, parce que vous l'avez dit, il n'y a qu'une seule piste en Suisse, et puis d'autres pas.
Mais je ne sais pas si on peut parler de développer. Je crois que le skeleton, comme la luge, sont des sports qui sont inscrits depuis belle lurette dans le programme olympique, comme le bob. Mais en termes de quantité d'adhérents à ces sports-là, ça reste minime. À partir de là, on peut toujours débattre sur le fait, faut-il garder ou ne pas garder ce type de sport dans un programme olympique. Maintenant, c'est pas à moi d'en décider.
Est-ce que c'est aussi le manque de structure finalement qui fait qu'il n'y a pas peut-être plus d'adeptes? Parce que s'il n'y a qu'une piste en Suisse, ben, forcément, si on habite ici en Romandie, ben, on ne pourra pas s'entraîner à ça.
Ben, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'environnement. On parlait aussi du patinage de vitesse. Pourquoi les patineurs de vitesse hollandais sont ceux qui dominent la scène mondiale? Tout simplement parce qu'ils ont des infrastructures qui le permettent. Donc il y a un effet de cause à effet entre le fait de pratiquer un sport et puis les infrastructures qui permettent de le pratiquer.
Justement, des fois, c'est en regardant les Jeux Olympiques que ça donne envie de faire un sport, le skeleton. C'est quoi l'impact des Jeux Olympiques de Pyeongchang sur les sports de neige et la formation des jeunes?
Je pense que là, c'est un réel problème, parce qu'on voit aussi, du reste, sur les réseaux sociaux, il y a pas mal de débats qui se créent par rapport au manque de public qu'il y a à Pyeongchang. Il semblerait quand même que les prix sont relativement hauts, ce qui pose problème pour les Coréens. Et puis, je pense que pour les pays comme la Suisse ou disons l'Occident qui sont à 10 heures, si ma mémoire ne me trahit pas, de décalage, on se lève peu la nuit. Donc il y a un impact assez incroyablement négatif, je pense, sur les jeunes, dans le sens où les Jeux Olympiques, le sport de compétition a un effet de catalyseur, d'envie, de motivateur, etc. Et là, le fait de ne pas pouvoir y participer, surtout encore dans une période qui est quand même compliquée pour les sports de neige, dans la mesure où on a vu cette décision du tribunal fédéral au problème des camps de ski, et quand on sait, par le passé, la première fois où par exemple les championnats du monde de rugby ont été diffusés à la télévision, l'impact que ça a eu en France, entre autres, sur le recrutement des petits rugbymen, ce manque de visibilité du ski et des sports d'hiver d'une manière plus générale, parce que le snowboard en souffre aussi, excepté peut-être le ski de fond parce qu'il est fait en nocturne là-bas, donc on peut y participer, mais ce manque de visibilité a certainement un impact sur l'envie de faire. Et je pense que là, maintenant, ça fait quand même plus de 10 ans que les Jeux Olympiques ne se déroulent pas en Europe, et je pense que c'est pas une bonne publicité pour les sports de neige.
En deux mots, en règle générale, les sports de neige ont plutôt la cote. Il y a de plus en plus de jeunes, ou c'est plus compliqué?
C'est plus compliqué, parce que c'est vrai que de par le fait qu'il y a quand même un mélange de population assez important en Suisse, le ski, le snowboard, qui étaient des sports nationaux, ne le sont un petit peu moins, dans la mesure où effectivement il y a justement ces différences, mélanges culturels. Et donc, en plus de ça, il y a un aspect du prix, même si les stations font de gros efforts, je pense que vous êtes au courant, pour faciliter l'accès aux sports de neige. Donc il y a un problème dans ce cadre-là. Et maintenant, c'est sûr que si la visibilité du sport est moins importante, ça ne va pas amener plus de personnes à avoir envie de faire. Et Dieu sait si cette envie est importante pour les sports de neige.
Merci beaucoup Pierre Pfefferlet, directeur du service des sports Unil et PFL, pour cet éclairage donc ce matin sur ces sports que l'on voit effectivement parfois que tous les 4 ans. Maya Chollet, vous l'avez cité. Merci beaucoup et bon retour.
Merci à vous.